Europe Nuit,
Alexandre Lemaire.
Bonsoir, Xavier Bertrand à l'offensive sur le terrain de l'immigration. Le candidat de droite dévoile un programme très ferme à un mois du congrès des Républicains. La mise en garde d'Amélie de Montchalin à Anne Hidalgo sur Europe 1 sur la question du temps de travail des agents municipaux à Paris. La Terre paraît bien mal en point vu de l'espace, Thomas Pesquet l'a confirmé à Emmanuel Macron dans un appel vidéo. Fonte des glaces et incendies, il a vu de ses yeux les ravages du changement climatique. L'ancien rugbyman Carl Heyman, atteint de démence précoce à 41 ans seulement, nouvel appel à la vigilance en cas de commotion cérébrale dans le cadre d'une activité sportive. La météo de ce vendredi, la pluie s'arrête mais le soleil se cache, nous dira Marlène Duret. L'invité éco, nous serons avec Frédéric Oudéa, le patron de la Société Générale, et nous verrons ensemble les unes de la presse pour demain matin.
Europe 1.
Reprendre le contrôle, c'est le mantra de Xavier Bertrand sur l'immigration. Contrôle également de l'espace-temps. Ce n'est pas un hasard si le candidat a choisi Calais pour présenter aujourd'hui son programme. Pas un hasard si on est à un mois jour pour jour de la désignation du candidat de la droite. Xavier Bertrand a deux axes pour se démarquer. Fin du système de régularisation des immigrés, démantèlement des camps de migrants.
Ce problème aurait pu être réglé à 100%, mais il aurait fallu que depuis 4 ans et demi, on ne fasse pas de la gesticulation et de la communication. Parce que si le problème effectivement est différent de ce qu'il était avec 9000 migrants, je ne comprends pas comment un gouvernement français, comment un président de la République comme M. Macron peut laisser se développer une telle situation. Nous avions dit bien avant ce qui risquait de se passer avec les traversées dans la Manche. Et si l'on veut revoir toute la politique migratoire ici, je suis prêt en tant que président de la République à dénoncer les accords du Touquet pour obliger les Britanniques à se remettre autour de la table et à trouver une situation qui ne couvre pas notre littoral de barbelés, mais qui nous permette également de trouver enfin une solution apaisée. Voilà ce que demandent les habitants du Calaisis, voilà ce que demandent les habitants des Hauts-de-France, mais aussi l'ensemble des Français.
Xavier Bertrand à Calais avec Lionel Gougelot, alors que 4 migrants ont été percutés par un TER aujourd'hui dans cette ville de Calais alors qu'ils se déplaçaient sur les voies ferrées. L'un d'entre eux a été tué sur le coup. L'un de ses compagnons se trouve en urgence absolue. Deux autres migrants plus légèrement blessés. La crise de la pêche reste entière entre la France et le Royaume-Uni après une rencontre parisienne aujourd'hui. Paris et Londres ne regardent toujours pas dans la même direction, selon Clément Beaune, mais le secrétaire d'État aux affaires européennes affirme avoir mis la pression sur son homologue britannique.
Au total, il y a 200 licences à peu près. Certaines sont là, mais elles sont provisoires. On veut qu'elles deviennent définitives, durables. Certaines ne sont pas là du tout. Et donc là, on se bat pour ces deux catégories. Rendre définitive des licences, en obtenir d'autres, c'est à peu près 200 au total. Certaines sont plus urgentes que d'autres. On fait une liste priorisée, parce que c'est très concret, pour que ceux qui n'ont pas du tout pu pêcher depuis quelques mois dans les eaux britanniques soient traités en priorité. C'est là-dessus que j'ai mis la pression auprès de mon homologue aujourd'hui. On n'a pas résolu nos désaccords. J'ai parlé très concrètement de ces cas, notamment la priorité pour les petits navires, parce que c'est ceux qui sont les plus en difficulté. Il y en a notamment dans les Hauts-de-France. Et soit le dialogue porte ses fruits, il y a des premiers gestes, la méthode pour regarder ces licences évolue. Soit les Britanniques nous disent bon, en fait, on n'est pas intéressé par le dialogue. Bon. Et on prendra une série de mesures de contrôle renforcées, notamment pour se défendre.
Et Clément Beaune, ce soir sur LCI, une nouvelle réunion entre Paris et Londres est prévue en début de semaine prochaine pour tenter de régler cette crise de la pêche. Amélie de Montchalin relance le bras de fer avec Anne Hidalgo sur la question du temps de travail des agents parisiens. La ministre de la fonction publique était ce matin sur Europe 1. Paris fait partie des villes où les agents municipaux travaillent toujours moins de 35 heures, alors que ce sera une obligation légale le 1er janvier prochain. Amélie de Montchalin adresse donc cette mise en garde à Anne Hidalgo.
Il y a un cas particulier qui est un cas qui, pour moi, est à la limite de la République et surtout de la responsabilité, qui est celui de la mairie de Paris. La mairie de Paris est la seule métropole et commune de France où le tribunal a contesté le règlement du temps de travail. Et c'est surtout la seule commune qui, hier, m'a fait parvenir une lettre m'expliquant que, tribunal ou pas, il ne changerait rien. Moi, je pense qu'Anne Hidalgo se fourvoie sur une ligne dangereuse et qui n'est pas républicaine quand on se présente aux plus hautes responsabilités du pays. Elle pense manifestement que le calendrier des élections présidentielles va lui permettre de repousser un dialogue social qui est nécessaire. Et je le dis, on ne peut pas s'asseoir sur une décision de justice. J'entends dire certains de ses amis que ce serait une justice politique. Non, c'est une justice qui sanctionne une mauvaise gestion.
Amélie de Montchalin avec Dimitri Pavlenko ce matin sur Europe 1. La ministre ne vise pas que Paris, mais aussi d'autres villes où les agents municipaux travaillent moins de 35 heures. C'est le cas de La Rochelle, Besançon, Clermont-Ferrand, mais aussi Strasbourg, où vous vous trouvez, Mélina Fachin.
Claude est éboueur à Strasbourg et effectivement, il est loin des 35 heures hebdomadaires.
Je fais 20 heures par semaine, mais on est payé 35 heures.
Donc vous touchez au moins le SMIC?
J'irais même un peu plus que le SMIC, pas beaucoup, un peu plus que le SMIC.
1500 euros net par mois. Et il n'est pas le seul dans ce cas à travailler moins de 35 heures par semaine, comme le confirme Pierre Kuntzmann, le président du syndicat autonome FAFPT.
Il y a une grande partie d'agents qui travaillent moins. Mais ça, c'est lié à la pénibilité. Les éboueurs qui travaillent très tôt le matin ou les gens qui travaillent très tard le soir, des horaires atypiques.
Et puis pour tous les travailleurs, dans le public comme dans le privé, il y a aussi une spécificité en Alsace et en Moselle.
Madame le ministre doit méconnaître très probablement le droit local. Le temps de travail est diminué de 2 jours. Le jour de la Saint-Étienne, où donc le 26 décembre est un jour férié, ainsi que le vendredi saint.
Mais ces 2 jours travaillés en moins n'expliquent pas forcément tout. Les 35 heures hebdomadaires correspondent à 1607 heures par an. Chez les agents municipaux de Strasbourg, il en manque 28 pour être conforme à la loi qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain.
Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Enquête ouverte pour tentative de meurtre après l'agression d'un policier du Val d'Oise roué de coups mardi soir dans un train alors qu'il regagnait son domicile en civil. Ses 4 agresseurs lui ont dit l'avoir reconnu. Le parquet a requis ce soir leur placement en détention provisoire. Âgés de 17 à 25 ans, 3 d'entre eux sont déjà connus de la justice. L'automobiliste touché par le tir d'un chasseur est mort. Il avait 67 ans. Il avait été très grièvement blessé au cou samedi dernier alors qu'il circulait en voiture entre Rennes et Nantes. La mise en examen du chasseur, 67 ans lui aussi, est requalifiée en homicide involontaire. Allez, on se place maintenant à 400 km au-dessus de la Terre. Dans la Station Spatiale Internationale, Thomas Pesquet y passe ses derniers jours de mission. Là où il est, il n'entend pas les conversations des dirigeants de la COP26, mais il a une vue imprenable sur les effets du changement climatique. Dans une conversation vidéo et en apesanteur, Thomas Pesquet a décrit ce jeudi à Emmanuel Macron les dégâts qu'il a pu observer depuis l'espace.
Est-ce que vous voyez véritablement les conséquences du dérèglement climatique ? Est-ce que de là où vous êtes, vous avez, des traces tangibles de ce qu'on décrit, ce contre quoi on lutte chaque jour.
Pour des phénomènes comme la fonte des glaces qu'on observe depuis l'espace, très clairement, mais ça s'accélère de manière assez inquiétante. En fait, d'une année sur l'autre, on sait qu'on bat des records de température sur Terre, mais d'une année sur l'autre, on sait aussi qu'on bat des records de feux, de tempêtes, d'inondations. Et ça se voit très, très clairement. Et ça, j'ai très clairement vu la différence par rapport à ma mission d'il y a 4 ou 5 ans. On voyait des régions entières qui brûlaient depuis la station spatiale au Canada, en Californie. On a vu la Californie entière recouverte d'un nuage de fumée. On voyait les flammes à l'œil nu depuis la station spatiale à 400 km d'altitude. Même chose dans le sud de la France, en Grèce, sur le bassin méditerranéen.
Malheureusement, vous documentez le pessimisme de court terme. Moi, je suis un optimiste de la volonté, donc je pense qu'on peut l'endiguer. Mais aujourd'hui, on vit ces conséquences au quotidien.
Voilà pour cet échange vidéo aujourd'hui entre le président et l'astronaute, entre la Terre et l'espace. De nouveaux engagements ont été pris à la COP26 aujourd'hui à Glasgow. 19 pays promettent d'arrêter de financer les énergies fossiles à l'étranger d'ici à la fin de l'année prochaine. Les États-Unis et le Canada comptent parmi les signataires. Ils sont parmi les gros investisseurs dans les énergies fossiles.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Des blouses blanches dénoncent une ubérisation de la médecine. Les ophtalmos, ORL, médecins réadaptateurs alertent contre une mesure qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée et qui prévoit la possibilité d'aller bientôt directement chez le kiné, l'orthoptiste ou l'orthophoniste sans prescription médicale. Attention danger, répond Philippe Marc, professeur de médecine physique et de réadaptation, car pour lui, il y a un risque à se rendre chez un kiné, par exemple, sans passer d'abord par son cabinet.
Là, on vous propose une expérimentation, ou comme toujours à la mode française, l'expérimentation peut vite devenir la règle tout court, dans lequel vous n'aurez pas de diagnostic initial et c'est votre kinésithérapeute qui vous verra en premier. Même quand vous avez une affection qui est relativement simple, il y a des diagnostics différentiels à éliminer. Vous avez mal au dos, c'est peut-être une infection d'une vertèbre, c'est peut-être une métastase, c'est peut-être un certain nombre d'éléments de ce type-là, et ça, il faut être en capacité de les éliminer. Et donc l'important, c'est qu'ils soient capables de donner l'alerte quand on sort de leur domaine de compétence. Il y a cette notion aussi, ce qui nous a un peu choqué, c'était l'idée qu'on va améliorer les déserts médicaux par cette prescription en première ligne des paramédicaux. Mais les déserts médicaux sont les mêmes que les déserts paramédicaux. Dans un certain nombre de maladies, le problème, c'est l'accessibilité à un kinésithérapeute.
Le professeur Philippe Marc, président du du Conseil professionnel de médecine physique et de réadaptation. La pilule anti-Covid arrive au Royaume-Uni, premier pays européen à autoriser le molnupiravir, nouveau traitement prometteur contre le Covid, à prendre en comprimé donc et complémentaire du vaccin. Alors que le rythme de transmission du virus en Europe inquiète l'OMS qui fait cette prévision sombre, le Covid pourrait encore faire 500 000 morts en Europe d'ici au mois de février prochain. Ces prises de parole sont rares, mais Brigitte Macron monte en première ligne contre le harcèlement sur les réseaux sociaux. La première dame ouvrait aujourd'hui la conférence de l'UNESCO contre le cyberharcèlement. Dans une vidéo d'il y a quelques jours, Brigitte Macron charge les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Elle leur demande de faire plus d'efforts, de respecter notamment l'âge minimum d'accès aux réseaux sociaux qui est fixé pour les ados à 13 ans. Pour Samuel Comblé, pédopsychologue à l'association e-enfance, eh bien, c'est pas facile, même à cet âge, de savoir où on met les pieds.
Il faut que les jeunes apprennent à se servir de ces outils qui sont extrêmement puissants. Alors à 13, 14, 15 ans, ça reste encore des jeunes qui ont besoin qu'on leur enseigne tout simplement comment se servir de ces outils. Rehausser l'âge légal sera peut-être une forme de réponse, mais ça n'empêchera pas l'éducation et l'accompagnement qui est toujours nécessaire de la part des adultes, des parents, des enseignants, etc. C'est vrai que les choses peuvent rester très longtemps sur Internet. Pour autant, on peut quand même dire que notre service, le 3018, qui est un numéro justement spécialisé dans les cyberviolences, a la capacité de faire retirer des contenus quand il y a des problématiques de cyberharcèlement. Il ne faut pas hésiter à faire usage de ce numéro parce qu'on est tiers de confiance auprès de la majorité des réseaux sociaux et on a la capacité de faire retirer très rapidement ces contenus. Donc c'est vrai que ça peut rester, mais pas toujours. Et il y a des moyens d'action et souvent on a l'impression que quand il s'agit d'Internet, rien n'est possible. Bah, ce n'est pas tout à fait vrai. Il existe des services comme le nôtre qui ont des capacités d'agir.
Samuel Comblé, psychologue de l'enfance et de l'adolescence avec Romain Desarbres dans Europe Midi. Jean-Luc Lahaye passe sa deuxième nuit en garde à vue ce soir. L'interprète de Papa Chanteur soupçonné de viol et agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans. Âgé de 68 ans, il est aussi soupçonné de détenir des images pédopornographiques. Au Maghreb, l'escalade des tensions inquiète entre le Maroc et l'Algérie. Les deux pays ont déjà rompu leurs relations diplomatiques depuis le mois d'août, mais un incident vient maintenant attiser les braises. Trois routiers algériens ont été tués lundi dans l'explosion de leur véhicule au Sahara occidental. L'Algérie en est sûre, Jean-Sébastien Soldaini, ils ont été visés par l'artillerie marocaine.
Et les termes employés sont assez rares. L'Algérie évoque un lâche assassinat et même un bombardement barbare. Les services de renseignement, eux, parlent d'un armement sophistiqué. Pas de précision là-dessus, mais le Maroc a reçu tout récemment la livraison de drones de combat turcs, du matériel capable de frapper dans cette zone grise. Le Sahara occidental, un territoire revendiqué par Rabat, mais contrôlé par des indépendantistes, un conflit vieux de plus de 50 ans, quasiment tombé dans l'oubli jusqu'à ce que Donald Trump vienne y mettre son grain de sable. Il avait reconnu la souveraineté du Maroc sur cette zone désertique et rocailleuse. En échange, Rabat acceptait de normaliser ses relations avec Tel Aviv, mal vu par l'Algérie, à un moment où elle tente d'élargir son influence dans la région, au Sahel, dans la perspective d'un désengagement français, en Libye, des zones où les points de friction avec le Maroc pourraient encore se multiplier.
Jean-Sébastien Soldaini. Crise politique au Portugal. Le président conservateur annonce ce soir la dissolution du Parlement, conséquence du rejet du budget 2022 du gouvernement socialiste. Il y aura donc des législatives anticipées au Portugal le 30 janvier prochain. Vous pratiquez un sport de contact, un sport de combat peut-être, eh bien attention aux conséquences des commotions cérébrales. Le témoignage de Carl Heyman rappelle tous les sportifs à la prudence, pas seulement les pros d'ailleurs. L'ancien pilier de rugby des All Blacks a révélé hier qu'il souffrait de démence précoce à 41 ans seulement. Il avait consulté après des pertes de mémoire, un sentiment de confusion et même des pensées suicidaires. Une commotion cérébrale, Afsaneh Sabouis, ça peut aussi arriver à un sportif amateur.
Une commotion cérébrale, c'est ce qui arrive quand on a un choc à la tête suffisamment violent pour que le cerveau se cogne contre la boîte crânienne. Alors ça provoque pas forcément une perte de connaissance, mais on reste vraiment sonné. On peut avoir une perte d'équilibre, un trou de mémoire ou tout simplement mal à la tête. Et ça peut arriver dans beaucoup de sports. Au rugby, au foot, au hockey, dans tous les sports de combat, et quel que soit l'âge et le niveau des sportifs. Il faut y être très attentif, comme l'explique le neurologue Jean-François Sherman.
Le maître mot, c'est on ne néglige pas une commotion. Quand on a une commotion, on sort tout de suite du terrain. Et quand on a une commotion, on ne reprend pas du tout le rugby ou n'importe quelle pratique dans laquelle on peut prendre des coups sur la tête si on n'a pas récupéré totalement. C'est fondamental. Je pense réellement que le problème, c'est quand les gens continuent à jouer ou qu'ils recommencent à jouer avec toujours des symptômes. Ça, c'est une catastrophe. C'est là qu'on risque d'avoir des lésions cérébrales qui vont persister et pourquoi pas provoquer une maladie neurodégénérative à long terme.
La question n'est pas du tout de renoncer au sport de contact. Jean-François Sherman m'a dit lui-même que sa propre fille de 8 ans joue au rugby. Mais par contre, il y a vraiment besoin de mieux sensibiliser tous les sportifs et les coachs, même en amateur, même chez les sportifs du dimanche. Un choc à la tête, ça n'est jamais anodin.
Voilà, beaucoup de vigilance, beaucoup. Il faut être attentif justement à tous ces signes qui doivent vous alerter. Merci Afsane Essaboui, spécialiste santé à Europe 1. On retourne au Masters 1000 de Paris-Bercy. Après le forfait de mon fils, il ne reste qu'un seul espoir français. Hugo Gaston joue ce soir pour une place en quart, Axel May.
Oui, mais avant qu'il ne rencontre le jeune Carlos Alcaraz, ça va être un peu le choc des jeunes, puisque Gaston, il a 18 ans, Alcaraz, l'Espagnol, Gaston a 21 ans, Alcaraz, 18 ans. Gaston, le grand public l'avait découvert à Roland-Garros l'an dernier, il avait été le dernier représentant français atteignant les huitièmes de finale. Mais avant de voir ce match, vous entendez peut-être derrière moi le public, il y a presque 15 000 personnes, c'est-à-dire c'est salle comble ici à Bercy. Le public est en train de regarder un match entre Sébastien Corda, l'Américain, et Daniil Medvedev, le Russe, le numéro 2 mondial, qui avait remporté Bercy l'année dernière et qui a surtout gagné l'US Open en septembre dernier. Et pour les plus anciens, ça rappellera des choses, parce que je regardais les statistiques, il y a eu dans les années 90 déjà des matchs entre Corda et Medvedev, entre Petr Corda, le père de Sébastien Corda, et Andrei Medvedev, rien à voir avec Daniil Medvedev, mais voilà, c'était pour la petite anecdote. Donc match serré, 6-4 pour Corda dans la première manche, 6-1 pour Daniil Medvedev dans la deuxième manche, et actuellement 3-2 dans le troisième set, match en faveur de Medvedev et le public qui est debout en train d'acclamer les joueurs.
Oui, c'est une soirée animée ce soir au Masters 1000 de Paris-Bercy. Axel May, merci Axel. On vous retrouvera tout à l'heure justement pour prendre des nouvelles de ce programme qui a pris du retard. Hugo Gaston qui affronte ce soir pour une place en quart de finale le prodige espagnol Carlos Alcaraz. Le temps pour ce vendredi, Marlène Duret, ce sera une journée calme, Marlène, quasiment sans pluie.
Oui. Grâce aux conditions anticycloniques, Alexandre, beaucoup de grisailles malheureusement à cette période de l'année. Forcément, le soleil est trop bas à l'horizon pour réchauffer suffisamment les basses couches de l'atmosphère. Résultat, des grisailles et du brouillard dans les régions du sud-ouest. Le massif central, le Lyonnais, une grande partie du centre-val de Loire et de l'Île-de-France, le département de l'Aisne, les régions du Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Vous voyez, sud-ouest, nord-est pour l'axe. Le ciel va rester bouché toute la journée près des Pyrénées, mais sur le reste de la zone, l'après-midi, on peut espérer quand même une petite amélioration, même si les nuages restent nombreux. Sur toutes les autres régions, celles que je n'ai pas citées, il fera beau. Mais oui.
Alors voilà une bonne nouvelle.
Voilà. Alors la Corse quand même, l'est de l'île, quelques averses orageuses. Et puis j'ajoute que le département du Pas-de-Calais a été placé en vigilance orange pour un risque de crue. Des rivières lisses et la quête. Les températures vont faire froid. Alors les maximales...
On est en novembre, tout va bien.
Voilà, 8 à 13 degrés d'est en ouest. Et les valeurs les plus hautes, on va les trouver du côté de la Grande Bleue, 15 à 18 degrés.
Merci Marlène, on vous retrouve à minuit pour un dernier point météo. On fait une très courte pause avant Top à Wall Street avec Didier Hamot, alors que Paris va de record en record. L'invité éco, Frédéric Oudéa, patron de la Société Générale. A tout de suite.
Europe Nuit, informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Top à Wall Street, Didier Hamot nous a rejoint sur Europe 1. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street qui marque une pause après ses récents records, sauf sur les valeurs de technologie qui sont encore bien en vue.
Oui, on souffle quand même un petit peu. Le Dow Jones, après ses records en série, perd 0,09%, une petite baisse, 36 124 points, quelques prises de bénéfices. Les valeurs de technologie montent encore effectivement. Le Nasdaq, plus 1,25%, 16 346 points. C'est le sixième record consécutif sur le Nasdaq. Les valeurs de technologie toujours en vue et toujours les mêmes. Tesla, plus 1,3%, 1 230 $. Ça n'en finit pas de monter sur Amazon, plus 2,7%, sur Microsoft, plus 0,7%, sur Google, plus 1,1%. Il y a quand même Apple qui marque un petit peu le pas. Moins 0,3%, Apple, 150,85 $. Il y a le pétrole qui descend encore. La réunion de l'OPEP était très attendue aujourd'hui. L'OPEP n'a pas relâché la pression et ça donne un pétrole qui redescend sous les 80 $ le baril, 79,50 $ ce soir.
Encore un record à la Bourse de Paris, Didier, le CAC 40 qui n'est maintenant maintenant plus qu'à quelques points de la barre des 7000.
Oui, troisième record d'affilée. Effectivement, on est à 6 987 points, plus 0,53%. De grandes valeurs ont emmené la cote vers le haut, comme Veolia, plus 4,5%, avec des résultats trimestriels records. Un résultat de 3,14 milliards d'euros. Et puis des rebonds sur CGG, sur Air France, plus 4%. STM, encore plus 2%. Toujours les valeurs de technologie qui se distinguent. Et puis la Société Générale à 29,71 €, plus 1%. La banque a presque doublé ses bénéfices au troisième trimestre.
Exception du jour, le titre Legrand qui termine en baisse.
Oh, une petite baisse, hein, moins 1,6%. Il faut dire que la valeur avait gagné pas mal de terrain sur les trois dernières séances qui étaient positives, avec des prévisions en hausse, une croissance organique située entre 11 et 13% en 2021. Il n'y a pas de casse chez Legrand, qui termine ce soir à 96,26 €. Sur les autres places financières, ça monte sur le DAX, plus 0,4% à Francfort, plus 0,7% à Bruxelles, et le CAC 40 en hausse de 0,53%, 6 987 points.
Merci Didier Hamot de Boursier.com. Portée par la reprise, la Société Générale enregistre de meilleurs résultats que prévu au troisième trimestre. L'invité éco ce soir, Frédéric Oudéa, patron de la Société Générale. Il répond à Carole Ferry.
Bonsoir Frédéric Oudéa.
Bonsoir.
Vous êtes le PDG de la Société Générale et si nous avons souhaité vous recevoir ce soir, eh bien c'est parce que vous avez annoncé aujourd'hui d'excellents résultats pour le troisième trimestre, bien meilleurs que prévu d'ailleurs, avec un bénéfice net qui a presque doublé au cours du trimestre, passant de 862 millions d'euros il y a un an à 1,6 milliard d'euros. Alors la première question qu'on se pose bien sûr, c'est comment vous expliquez ces très bons résultats? C'est la reprise?
Bah écoutez, c'est vrai, d'abord, après un très bon premier semestre, on affiche un troisième trimestre avec des performances un peu exceptionnelles, tirées par tous les métiers. C'est oui, le rebond des économies dans le monde, c'est des marchés, des conditions de marché favorables. Mais je dirais que c'est surtout aussi le travail de fond qu'on a engagé depuis plusieurs années dans tous nos métiers pour les adapter aux nouveaux besoins des clients, pour améliorer leur efficacité opérationnelle. Donc c'est le résultat de choix stratégiques. Et c'est vrai que ça paye en particulier aussi ce troisième trimestre. Et puis ensuite, on a un coût du risque très bas. Il y a très peu de défauts d'entreprise et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que on a fait le job, nous, les banques, avec les pouvoirs publics pour faire que l'économie française se porte mieux qu'anticipé. Il y a moins de chômage, il y a moins de faillites. Tant mieux.
Avec les pouvoirs publics, en effet, quand même, qui ont beaucoup soutenu pendant cette période du Covid.
Oui, absolument, absolument. Mais on a été aussi présents, et j'en suis fier, au nom de tous les banquiers, on a fait le travail pour aider les entreprises à passer ce mauvais cap et finalement à rebondir elles-mêmes assez vite, comme on le voit en général, dans leurs propres résultats.
Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'on est en train de voir un peu le bout du tunnel, ou est-ce qu'aujourd'hui, on va quand même un peu retirer les perfusions? On a un risque aussi que ça passe moins bien par la suite.
Si vous voulez, je crois, encore une fois, l'économie française et les économies ont rebondi plus vite que prévu. Et au fond, il y avait une interdiction, une fermeture administrative qui est levée grâce à l'amélioration de la situation sanitaire. Donc, beaucoup d'entreprises sont capables de repartir. Il y en a peut-être quelques-unes qui auront des difficultés, mais à mon avis, ce sera quelque chose de très modéré. Ensuite, on va revenir sur des enjeux structurels de compétitivité des économies. En 2022, on va reparler des enjeux d'innovation, de formation, tous ces sujets sur lesquels on ne s'est pas focalisé, parce que notre obsession à nous toutes et tous, c'était de sortir de cette situation sanitaire hors norme. Et on va retrouver des sujets plus traditionnels, si j'ose dire. Mais au total, on reste quand même constructif sur 2022, sur les perspectives.
Alors Frédéric Oudéa, nous sommes en pleine COP26. Les banques ont vraiment un rôle essentiel à jouer dans cette lutte contre le réchauffement climatique, puisque vous pouvez finalement refuser de prêter de l'argent à des entreprises qui polluent trop. Et vous avez annoncé plusieurs mesures dans ce sens-là.
C'est la grande révolution. Hein. Vous savez, cet enjeu de la transition énergétique, notamment, c'est le sujet des prochaines années. La crise ne l'a pas fait naître. Nous, ça fait plusieurs années qu'on est engagé dans ce domaine, mais c'est vrai qu'il y a une accélération des attentes. Alors, comme vous le dites, il s'agit non seulement de prendre des engagements à long terme, comme on l'a fait. Hein. Beaucoup d'entreprises, à 2050, disent on va être neutre d'un point de vue de l'émission des CO2. C'est notre cas. Mais il faut regarder à plus court terme. Et c'est ce qu'on a souhaité faire à l'horizon 2025, en disant par exemple que nous allons réduire de 10% nos financements aux entreprises qui produisent du pétrole ou du gaz. Moins de 10%, ça veut dire des choix. Ça veut dire effectivement renoncer à des financements si des entreprises ne pivotent pas leur propre activité dans ce domaine de l'énergie, évidemment fossile, Mais plus généralement, on va le faire dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on va accompagner nos entreprises. Il s'agit aussi de préserver les emplois. Il ne s'agit pas de détruire les économies trop brutalement. Mais en revanche, d'être vraiment très engagé, très déterminé pour avancer en ligne avec les scénarios qui nous permettront de limiter la hausse de température dans le monde.
10%, c'est suffisant? C'est pour justement éviter les suppressions d'emplois?
10%, c'est beaucoup sur 5 ans, parce que vous savez, souvent, ces prêts, ils ont eux-mêmes une durée de 5 ans, donc ça veut dire des vrais renoncements, des vrais choix. S'il faut accélérer au regard des scénarios, on le fera, mais en tout cas, c'est une étape majeure, et je le répète, il y en aura d'autres, et nous suivons, nous nous alignons sur les scénarios qui permettent de limiter la température, l'augmentation de la température.
Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour, Frédéric Oudéa, que nos banques ne fassent plus de crédit pour acheter un appartement ou une maison trop mal isolée, par exemple?
Peut-être un jour, parce que on aura passé des dizaines d'années à rénover les bâtiments et permettre justement à tous les propriétaires d'économiser leurs propres dépenses d'énergie et de consommer de manière plus vertueuse. Mais attention, si on le fait trop vite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains qui viennent d'acheter leur appartement, leur maison, elle ne vaut plus rien. Vous voyez, je pense qu'il faut qu'on soit quand même aussi conscient des ruptures que ça peut provoquer si on allait à un rythme inacceptable, incompatible avec les économies. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être responsable, inciter, conseiller, financer ce qui est vertueux, étape après étape. Et je pense qu'on peut très bien, là aussi, travailler avec les autorités publiques, les gouvernements, pour aller dans la bonne direction ensemble.
Alors, vous vous apprêtez, par ailleurs, à fusionner avec le Crédit du Nord. Vous en êtes où?
Alors, ça, c'est peut-être le plus gros projet de la Société Générale. C'est le rapprochement de deux réseaux, Société Générale et Crédit du Nord. Vous savez qu'il y a 15 jours, on a présenté en détail ce que serait cette nouvelle banque. Une nouvelle banque, d'abord ambitieuse, hein, qui a envie d'offrir un meilleur service à ses clients. Une banque organisée sur une base régionale. Donc, la Société Générale, dans son organisation, va devenir plus locale. Une banque qui ne quitte aucune ville, qui regroupe des agences, certes, des deux réseaux.
Vous allez fermer quand même 600 agences?
Oui.
Comment vous allez faire le choix de ces fermetures?
Il y a 2000 personnes qui ont travaillé sur ce projet des deux réseaux pour déterminer exactement, justement, quelles agences allaient être regroupées. Et typiquement, les situations, c'est quand vous avez deux agences, l'une du Crédit du Nord ou de Société Générale, à 200 mètres l'une de l'autre, que ce soit dans les grandes villes ou même dans des petites villes, il n'y aura peut-être parfois qu'une seule agence, mais nous serons bien présents. Et donc, elle gardera cet ancrage territorial. Ce sont des agences plus grandes, des agences modernes, des agences avec des conseillers encore mieux formés qu'aujourd'hui, et en tout cas avec néanmoins le bénéfice effectivement de ces économies, et puis surtout d'un seul et même système d'information au lieu de deux. Donc un système dans lequel on pourra investir, là aussi, pour répondre aux besoins des clients qui utilisent, on le sait, de plus en plus les canaux digitaux. Je ne sais pas si vous-même, vous avez été dans votre agence bancaire cette année.
Vous avez tout à fait raison, c'est certain qu'on y va moins.
On y va de temps en temps, et quand vous souhaiterez y aller, c'est important que vous ayez un conseiller.
Il y en aura une.
Bien formé, il y en aura une, mais vous y allez de moins en moins.
Ça va entraîner aussi 3700 suppressions de postes. Vous êtes certain que ça pourra se faire sans licenciement contraint?
Absolument. Et justement, on prend le temps de le faire justement en jouant des départs naturels, en mettant en avant la mobilité interne. On va dépenser 100 millions d'euros dans le programme de formation justement à destination de nos salariés pour leur permettre de faire évoluer leurs compétences et de saisir les opportunités existantes au sein du groupe. Donc oui, il n'y aura aucun départ contraint. C'est un engagement de la Société Générale et de son directeur général.
Un grand merci à vous, Frédéric Oudéa, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vous êtes, je le rappelle, le PDG de la Société Générale. Bonne soirée.
Merci beaucoup.
Et merci à vous, Carole Ferry. On vous retrouve demain avec Emmanuel Duteil de 13h à 14h pour La France Bouge sur Europe 1. Votre invité sera Pierre-Yves Guisse, le directeur général de Paris La Défense. Un rapide coup d'œil aux unes de la presse pour demain vendredi. La COP26 fait assaut de promesses contre le charbon et les énergies fossiles. Ça n'a pas échappé au Figaro. Oui, mais comment arriver à la neutralité carbone sans tricher, s'interroge Libération. La rentrée des vacances de Toussaint approche. Lundi, le masque revient à l'école dans 39 départements. Le masque leur colle au basque, titre 20 minutes, alors que les familles et syndicats s'agacent à l'heure du retour du masque à l'école primaire. Et puis tiens, des revenants aussi à la une de Libération. Ce sont les membres du groupe ABBA, alors qu'on voit ici dans leurs jeunes années, mais qui sortent ce vendredi, demain, un nouvel album première livraison d'inédit, premier album studio pour ABBA en 40 ans. 22h30 sur Europe 1. Un grand fan d'ABBA est avec nous, Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Exactement,
non,
mon cher.
Je m'avance peut-être un peu, je ne sais
non,
pas.
Non, pas du tout, pas du tout. Un grand fan, c'est beaucoup dire. Mais bien évidemment, comme beaucoup de monde, j'apprécie énormément le groupe ABBA.
Je vous croyais plus branché rock, mais l'un n'empêche pas l'autre peut-être.
Vous faites bien de me sentir plus branché rock. Mais vous savez que, en fait, j'ai vu un documentaire sur ABBA qui déchaînait quand même les foules. Ils ont joué dans des grands stades. C'était la vie rêvée d'un artiste... remplacer un des membres d'ABBA.
On pourra découvrir demain si la créativité, si l'inventivité est toujours là.
Nouvel album,
le premier en 40 ans.
Ça va être un raz-de-marée. On se retrouve tout à l'heure,
à 23h.
À tout à l'heure.